Bienvenue à Evergreens by Spuekis, un podcast sur la durabilité, la technologie et l'avenir dans le secteur bancaire et financier. Présenté par Brian Ferrari, voici ses invités.
Je m'appelle Ananda Kant, je suis membre de la direction de l'Association des banques bancaires Luxembourg, donc la BBL, et je suis en charge des sujets de paiement, digitalisation et sustainability.
Je m'appelle Joseph Delay, je suis Head Legal chez Spuekis et pendant 30 ans, j'ai été responsable de l'onboarding de la clientèle.
Pierre Grasset, je suis membre du comité de direction de LuxTrust et j'ai en charge tout le volet qui touche aux clients.
On entend souvent que les gens sont légèrement énervés quand ils reçoivent un appel de leur banquier qui leur dit « j'ai besoin de telle et telle information parce que nos données ne sont pas mises à jour ». Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de pourquoi on a besoin, ou les banques ont besoin de ces informations, et puis après, comment ces données sont gérées au sein des établissements bancaires, et ces données, il y a de l'importance, parce que sinon, il n'y aurait pas non plus cette émergence des tentatives de phishing, donc pour arriver à la fin vers ces aspects désagréables qui sont liés aussi au système bancaire. Donc merci à nos invités d'être venus aujourd'hui. Et qui a donc envie de se lancer et d'expliquer pourquoi les banques ont besoin de tellement d'informations?
J'oserais prendre le départ en capitalisant sur 30 ans d'expérience en termes d'onboarding pour dès le départ, mettre le projecteur sur un rôle que le client, qu'il soit consommateur, qu'il soit entreprise, ne voit pas tout de suite. Le banquier, entre-temps, il est devenu un auxiliaire. Il a commencé par être un auxiliaire de la police, de la justice, en 1989, suite à la mise en place du GAFI, et on a commencé à parler de la lutte anti-blanchiment. Et pour plus d'un d'entre nous, un terme qu'on n'avait jamais entendu a vu le jour, celui de bénéficiaire effectif. Il est sorti des nimbes et voilà que la complexité ne faisait que commencer. Ce rôle d'auxiliaire de justice était au départ focalisé sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et petit à petit, toute la panoplie des infractions criminelles, mais particulièrement des infractions de criminalité financière, le côté financier de la criminalité, est tombé dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. Lutte anti-blanchiment, ça a voulu dire une première extension de l'effort documentaire du banquier. Ensuite, je vois un deuxième milestone, c'est celui qui est lié à la sphère fiscale. Et il y a eu un acteur très puissant. Un acteur très puissant, ce sont les pouvoirs publics, le gouvernement américain, qui, par la magie d'un Qualified Intermediary Agreement, qui, par la magie d'une financial, de FATCA, plutôt de FATCA, a réussi à englober tous les acteurs financiers dans une nouvelle quête de documentation, la documentation qui établit l'orthodoxie fiscale du client bancaire. Et puis, parmi nos clients, il y a ceux qui investissent, qui sont donc en bourse et qui ont été considérés comme nécessitant une protection rapprochée pour que, justement, ils ne soient pas victimes de placements qu'ils ne comprendraient pas. Et encore une fois, la sphère de documentation s'est élargie jusqu'à aller creuser le niveau de connaissance du client, le niveau d'intérêt ou d'aversion au risque. Et dernière étape, la plus belle, la plus verte en ce printemps naissant, c'est ESG, c'est la protection de l'environnement, des critères sociaux et de bonne gouvernance. Tout ça mérite notre attention, mais tout ça également va s'accompagner d'une poussée documentaire que déjà aujourd'hui les entreprises ressentent avec des acronymes comme Corporate Sustainability Directive et autres Sustainable Finance Regulation. Donc, on est aujourd'hui dans un environnement qui est très large et qu'il importe d'expliquer aux clients pour que cette collecte d'information soit optimale.
Il y a un terme aussi qui est assez connu, c'est le KYC, donc Know Your Customer, sur lequel on pense toujours que les données qu'on demande aux clients sont toujours les mêmes dans toutes les banques. Et pourquoi finalement une banque me demande plus d'informations? Pourquoi les données ne sont pas tout de suite partagées entre les banques, etc., pour être plus efficaces? Mais en fait, il y a toujours une approche risque en fait, qui est aussi donc dans le droit de la banque de juger finalement quels sont les documents qu'il me faut pour compléter le dossier d'un client en fonction en fait, des activités qu'il a, de ce qu'il veut aussi, s'il veut un crédit, si c'est plutôt une entreprise, etc. Donc, il y a toujours des demandes en fait, qui peuvent différer d'une banque à l'autre. Et après, en fait, je suis tout à fait d'accord pour... justement le rôle que la banque en fait joue dans tout ce qui est lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, etc. Il y a toute une série de documents qui sont nécessaires, mais aussi importants pour protéger le consommateur. Quand on parle justement des questionnaires MiFID, en fait, pour comprendre quelles sont les connaissances du client par rapport à son profil d'investissement, quelles sont ses connaissances par rapport aux produits financiers, quelles sont ses préférences en termes de risque aussi. C'est très important pour que le banquier puisse aligner en fait son offre, sa proposition par rapport aux besoins du client aussi. Donc, en termes de profil ESG, ça, c'est aussi un critère qui est très important puisque finalement, aujourd'hui, c'est assez nouveau. Hein, donc, chaque client a besoin, qui va investir, il a besoin en fait de remplir un questionnaire ESG, ce qui permet à la banque aussi de pouvoir s'assurer d'avoir des produits ESG. Donc, en fait, ça entraîne aussi quelque part une bonne adéquation entre l'offre et la demande. Et puis, j'ai enfin un autre exemple aussi sur lequel on travaille activement au niveau des sociétés de paiement, tous les acteurs du paiement aujourd'hui, c'est en fait le CESOP, qui est en fait une base de données qui a été créée au niveau européen à partir de début 2024, qui vise justement à lutter contre la fraude de la TVA dans les transactions transfrontalières. Donc en fait, toutes les entités de paiement vont devoir partager des informations sur les transactions des paiements au-delà d'un certain seuil, donc 25 transactions par trimestre, vers un même bénéficiaire. Pour être sûr finalement que ces bénéficiaires est bien en train de reporter et de payer sa TVA. Donc voilà, donc la banque joue quand même un rôle qui va au-delà juste des transactions qu'on connaît, mais qui collabore justement avec les autorités pour tout ce qui est éviter donc les fraudes financières.
Pour rebondir sur ce que disait Ananda, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la protection du consommateur. Et en fait, la collecte de documents pour vérifier quelque part l'identité, la mise à jour des documents qui sont demandés, c'est aussi en vue de le protéger. Dans le contexte des services bancaires, de l'accès aux services bancaires, c'est important de qu'on ait bien affaire à la personne qu'elle prétend être et d'éviter les mécanismes d'usurpation d'identité. Donc en fait, toute cette collecte qui vise à vérifier l'identité des personnes et à vérifier dans le temps que c'est toujours bien, les pièces sont toujours à jour, c'est aussi dans ce but-là, c'est aussi de les protéger.
Mais ce qui est bizarre, c'est que on a l'impression qu'il y a quand même parfois différents standards, surtout en termes de KYC. Donc parfois, il y a des clients qui ne comprennent pas parce qu'ils disent au prix d'un autre établissement, on ne m'a pas demandé ça, pourquoi vous le demandez? Est-ce que ça ne serait pas plus facile et plus transparent pour tout le monde s'il y avait une liste avec tout ce qu'il faut mettre pour que ça soit standardisé et que ça soit pareil?
Alors, il y a toujours un minimum, en fait, qui est demandé à différents types de clients, en fait, pour bien connaître qui est cette personne, l'identité, l'origine des fonds, l'objectif du compte, etc. Donc, ce sont des données standards. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une approche risk-based, en fait, qui est vraiment propre à chaque banque de décider, en fonction de l'analyse du risque qu'elle fait du client, quels sont les documents qui sont demandés. À Luxembourg, on a la chance d'avoir une solution mutualisée qui a été mise en place par différents acteurs, en fait, des bancaires à Luxembourg pour créer une mutualisation du KYC. Donc, c'est via la plateforme qui s'appelle iHub, qui permet justement de faciliter l'échange d'informations. Si, par exemple, un client il veut travailler avec différentes banques, il peut, sur cette plateforme, partager lui-même, en fait, ses données avec différentes banques. Et donc, on crée de la mutualisation et de l'efficacité. Mais ça reste quand même toujours un processus qui peut paraître un peu lourd, mais qui est très important pour la bonne connaissance et pour toutes les checks qui sont obligés d'être faits au niveau de la banque pour les raisons qu'on vient de mentionner, en fait.
Question mutualisation. Là, je souhaite rebondir sur ce que Ananda vient de dire, parce que d'aucuns parmi les clients des compagnies d'assurance ou des banques peuvent craindre que des documents, des données ne soient échangés à leur insu. Eh bien, ceux-là, il faut, et on peut les rassurer, que ces échanges n'auront lieu que sur accord. C'est comme déjà aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'open banking. Si vous voulez accéder à vos informations d'un compte, par exemple, chez Revolut, et vous voulez y accéder via la plateforme SNET Spurcase, vous devrez, en tant que client, délibérément et clairement accepter cela. Donc, il n'y aura jamais de passage de Revolut à Spurcase et vice-versa sans l'accord du client. Ça, je crois que ça, c'est important à souligner. Et puis, pour encore une fois aussi répondre à la question de Brian, pourquoi est-ce qu'il y a des approches différentes? Il ne faut pas oublier, on a des banquiers généralistes, comme Spurcase, on a des banquiers spécialisés dans le private banking. Rien que ça déjà va expliquer une approche différente, un besoin de documentation qui sera peut-être divergent. Et puis également, il ne faut pas oublier que parmi, prenons les banques privées, il y en a qui sont liées à des groupes étrangers qui doivent aussi répondre à la logique du groupe, ce qui est tout à fait compréhensible et légitime.
Donc on peut déduire qu'une banque qui demande plus d'informations est celle qui veut se couvrir plus.
Se couvrir est un peu, cavalier comme terme. Je retiendrai plutôt le descriptif d'Ananda, la risk-based approach. Et ça, c'est vraiment ce que le régulateur, les pouvoirs donc de supervision attendent de tous les banquiers, de tous les assureurs, c'est que tout un chacun définisse son appétit du risque et soit à la hauteur des buts qu'il se donne.
Et ce dont on peut se réjouir à Luxembourg, c'est que le niveau d'exigence est plutôt élevé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'écosystème, parce que justement, ça, quand on pense encore une fois à la protection du citoyen et du consommateur, in fine, ça va dans cette direction. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Ah oui, mais il me semblait qu'on était sur une zone grise, non ? Point de vue GAFI, qu'on voulait sortir de ça, et c'est pour ça qu'on est aussi plus... Non ?
Non, on a réussi l'examen avec brio.
Oui, non, mais on était sous le feu quand même, et on voulait être parmi les meilleurs élèves, justement, parce que la place financière est importante pour nous.
Mais le Luxembourg, dans son ensemble, a un très bon résultat, effectivement. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Mais oui, les acteurs luxembourgeois ont bien travaillé sur tous les problèmes, je vais dire, qui pourraient avoir côté AML. Et donc, on a un très bon résultat. Donc, on peut être fier de ça, effectivement.
Oui, puis ce qu'il faut voir aussi, c'est dans le contexte luxembourgeois, les acteurs qui prestent pour les banques, ils sont soumis à des normes qui sont strictes également. Ils sont régulés par le même superviseur, selon des critères différents, mais des critères qui sont aussi exigeants, ce qui permet de garantir quelque part un niveau de qualité sur toute la chaîne. Ça, c'est important.
Qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la banque ou même aussi au niveau du client si on ne respecte pas toutes ces demandes, si la documentation des clients n'est pas à jour? Est-ce qu'on risque grand chose?
Le risque, c'est de ne pas pouvoir donner suite à la demande d'ouverture de compte ou d'entrer en relation en fonction de la demande. Si l'institution financière n'a pas tous les documents qui sont exigés par les règlements, elle ne va pas poursuivre la relation, ça c'est certain. Parce qu'elle risque elle-même en fait des sanctions et puis elle met en jeu en fait tout le système financier. Donc on va pas jouer avec la réputation d'un système et qui joue un rôle très important dans l'économie. Hein. Donc le secteur financier est clé pour faciliter énormément de transactions. Il faut qu'il soit stable, il faut qu'il soit contrôlé, il faut qu'il protège ses consommateurs. Donc il y a une série de critères qui sont importants. Si le client n'est pas en mesure de donner toutes les données qui sont demandées par le banquier peut refuser en fait l'entrée en relation.
Et si ce client il est déjà client auprès de l'établissement et qu'il après refuse de fournir encore plus de documentation quelques années plus tard, qu'est-ce que la banque a le droit de faire?
Tout refus d'obtempérer à la demande du professionnel doit susciter des interrogations. et nous connaissons tous le genre humain. Il y a des moments où tout un chacun d'entre nous est peut-être un peu plus cabré. Et donc, c'est alors avec l'explication, avec le dialogue, qu'on arrivera très souvent à convaincre telle ou telle personne, tel ou tel entrepreneur que, eh bien, les exigences ont changé et que donc on doit étendre le paquet documentaire. Si ça ne réussit pas, ça peut être ce qu'on appelle alors une des red flags, c'est-à-dire un indicateur de besoin de creuser peut-être plus la question et de partir vers une dénonciation aux autorités compétentes pour réceptionner des suspect transactions auditings. Oui, donc aucun, je pense qu'il y a aucun automatisme dans cette matière. Ça demande une analyse au cas par cas, et ce qui pourrait alors également nous amener encore à discuter, peut-être dans quelques instants, sur des problématiques qu'on appelle le de-risking, qui ont également leur, comment dirais-je, doivent également être analysés de près.
Alors là, tu suscites quelque chose que je ne connais pas du tout, donc je t'invite quand même à expliquer ce que c'est le de-risking.
Eh bien, le de-risking, c'est ce que certaines franges de la population ou bien certains groupes d'entreprises croient percevoir dans le cadre de la mise en place d'une relation bancaire, à savoir qu'ils n'arrivent pas à prendre pied dans la sphère bancaire et financière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au départ des considérations émises par la Commission européenne, on va dire qu'un consommateur de 2024, il a droit à avoir un compte bancaire. Alors la réponse politique européenne a été de mettre en place un compte de paiement de base. C'est une chose. Qui va, par exemple, permettre à des demandeurs d'asile qui n'ont plus que la moitié d'un document d'identité à néanmoins être bancarisés. Et cette bancarisation est très importante parce qu'elle vous sort, elle évite que vous ne tombiez dans la sphère de la banque parallèle. Et donc, on doit participer à ces efforts. Quand on aborde maintenant la question du de-risking par rapport aux entreprises, on doit également alors expliquer les besoins et être conscient de la complexité à laquelle on doit parfois s'attaquer, vu qu'on est confronté à des groupes ou à des enchevêtrements très complexes d'entités où, la connaissance à tous les échelons est nécessaire. Et donc, c'est un give and take. Hein. C'est autant le client ou le prospect sera en mesure de répondre aux questions, d'apporter la documentation voulue, autant ça pourra aller vite. Si ce n'est pas le cas, ça peut être assez délicat. Il ne faut pas non plus oublier, à un moment donné, les questions de rentabilité, comme auprès de tout commerçant. Le banquier est un commerçant. Il doit aussi assurer sa rentabilité et donc trouver les équilibres voulus en termes budgétaires.
Oui, par rapport à la rentabilité, quand on a des vagues de clients qui ne sont pas forcément à jour au niveau des pièces, ça nécessite des plans de remédiation avec des efforts, plusieurs vagues, etc. On sait très bien que les retours ne sont pas toujours optimaux lors des premières vagues. Donc, il y a beaucoup aussi d'éducation, de pédagogie qui doit être mis en œuvre pour sensibiliser les gens pourquoi on a besoin de ces éléments. Et ça peut prendre du temps. Et au final, le temps, ça coûte aussi. Donc, c'est un point qui est quand même à ne pas négliger.
Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça via un jeu? Je sais pas. Tout le monde donne ses données quand il s'agit de gagner quelque chose. Donc, inscrivez-vous et donnez-nous vos données. Et puis après, nous, on a les données et vous gagnez quelque chose. Ça ne doit pas être si difficile quand même de collecter les données, non?
C'est vrai que quand il n'y a pas vraiment d'incitation, quand les gens ne comprennent pas la raison fondée de pourquoi on leur demande des informations, forcément, les taux de retour ne sont pas toujours des plus épatants, donc c'est une bonne...
Je pense qu'on a le même problème sur les certificats énergétiques, justement, là où les gens doivent dire quelle est la classe de leur bâtiment, et donc le retour, il est très faible aussi, donc une voie, c'est de dire faisons quelque chose pour que les gens le fassent volontairement, mais qu'est-ce qu'on fait?
Mais Brian, je veux faire un petit parallèle avec ton idée de mettre en place un jeu. Et je vais te poser la question. À ton avis, quels sont les dossiers qui sont les mieux ficelés et les plus vite ficelés? Soit les dossiers de demande de crédit d'un prospect, ou soit un dossier de demande pour rentrer dans une sphère d'investissement en private banking. Je vois que tu cherches.
Bah écoute, si tu me le dis comme ça, j'ai aucune idée.
Eh bien, c'est le dossier crédit. Parce que justement, là, le prospect, le client, il attend quelque chose.
Il a besoin de quelque chose.
Il a besoin. C'est un peu vilain, ce que je dis là. J'en suis bien conscient. Mais la réalité le montre. Et donc, à nous alors d'expliquer au prospect qui entend mettre en place un plan d'investissement le pourquoi il faut non seulement connaître l'origine des fonds, mais également comment la fortune a été établie sur au moins sur le moyen terme. Et là, je pense que tout un chacun d'entre nous risquerait même d'avoir des problèmes à remonter jusqu'en 2000 pour établir que, eh bien, ces revenus de 2000, par exemple, si c'est une profession libérale ou un entrepreneur, ça peut être complexe. Et donc, c'est sur base de tous ces éléments qu'il faut alors établir un canevas.
Oui, je pense que pour les certificats d'énergie, c'est peut-être un peu différent parce qu'en fait, quand il s'agit d'une rénovation, les banquiers demandent effectivement un certificat énergétique en fait, du bâtiment. Mais pour les anciennes constructions, ils sont moins facilement disponibles. Il faut en refaire.
Il faut le payer.
Qui prend en charge le coût, etc. Donc, c'est quand même beaucoup plus difficile que peut-être certaines informations qui prennent du temps, mais qui sont quand même accessibles à chacun.
Quoi, obtenir les données, c'est difficile. Et puis après, il faut aussi les gérer. Donc, il faut les maintenir, il faut les sécuriser. Est-ce que ça, c'est toujours fait au sein de chaque établissement? On vient déjà de parler un peu de iHub. Donc, est-ce que toutes les informations de tous les clients vont être là et les banques n'auront plus besoin de le faire chez eux? Ou comment ça se passe niveau sécurisation?
Par rapport à ce type d'initiative, typiquement, où quelque part, les données sont collectées et comment elles doivent être sécurisées. Ce qui est intéressant par rapport à ce que Ananda disait dans le contexte de la mutualisation en vue du KYC bancaire, pour l'établissement financier, c'est quelque part d'outsourcer cette gestion qui est souvent administrative. Et on parle de mutualisation au niveau du dossier client, mais on parle aussi de mutualisation pour les efforts qui sont mis en œuvre pour la collecte et la mise à jour de l'ensemble des documents. Après, pour la sécurisation de ces éléments et des données en question, oui, on va confier dans le cadre d'une sous-traitance stricte des données à un prestataire externe qui va devoir les gérer. Mais l'établissement financier reste responsable du traitement de ces données également et doit les stocker en toute sécurité, suivant les best practices du marché de l'informatique.
Oui, non, parce que, comme dit, voilà, ces informations, ça vaut de l'or. Et justement, il y a beaucoup d'attaques malsaines qui se font. Les tentatives phishing, ça devient de plus en plus récurrent. Est-ce que quelqu'un peut-être aurait envie de parler de ce que c'est une tentative de phishing et ce qu'il existe encore comme différentes fraudes, juste pour débuter? Maintenant, d'abord, il n'y a personne qui voulait parler, maintenant on se tape dessus. Donc, vas-y, Ananda.
Alors, le phishing, c'est en fait une tentative d'usurpation de données personnelles dans le but, en fait, de manipuler une activité malsaine, en fait, donc financière malsaine. Ici, à Luxembourg, effectivement, on a remarqué qu'il y a eu par vague une augmentation de nombre de phishing, en fait, de tentatives, en tout cas, de phishing au niveau donc des personnes. Alors, le maillon faible, on voit souvent, c'est les individus. Puisque finalement, on en a parlé un petit peu de la sécurité de données. C'est vrai que les banques, elles investissent énormément dans des solutions très robustes pour sécuriser les systèmes informatiques, on va dire. Et aujourd'hui, la façon la plus facile, entre guillemets, de pouvoir usurper, en fait, et faire une fraude bancaire, c'est en utilisant les données personnelles des individus. Puisque là, on va pas, en fait, hacker une banque, mais on va plutôt essayer d'utiliser du social engineering pour convaincre un client de donner ses informations en se faisant passer par quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, effectivement, c'est un problème qui, qui existent. Alors, on répète qu'il faut jamais en fait divulguer ces données personnelles avec un tiers. Les banques ne vont jamais demander ces genres d'informations à une personne. Si jamais, il faut jamais aussi réagir en moment de panique en fait, parce que souvent il s'agit d'une situation sur laquelle il y a une urgence, il y a une situation de peur. Donc il faut réfléchir, il faut garder son calme, prendre son téléphone, appeler son banquier avec son propre numéro de téléphone et pas le numéro de téléphone qui est indiqué dans une communication, jamais cliquer sur des liens. Donc vraiment prendre son temps pour analyser la situation et pas réagir dans la panique. En fait, c'est vraiment très important.
Oui, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que les attaques, elles sont de plus en plus sophistiquées. Donc, il y a encore quelques années, on avait... en fait, le phishing, comme disait Ananda, il faut collecter les données personnelles d'une personne, pas à son insu, mais c'est de le corrompre pour qu'il vous donne ses informations personnelles. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les malfaiteurs, ils envoient un SMS ou un email à la personne avec un lien. Et en fait, la personne se retrouve sur un site qui n'est pas un site légitime. Donc, par exemple, on va se retrouver sur un site spourcase.lu, mais c'est un faux site. Et en fait, ce site va vous inviter à partager des données personnelles. Et comme je disais à l'époque, il y a quelques années, il y avait des fautes d'orthographe dans les emails. C'était assez rapidement détectable. Et souvent, les données étaient subtilisées une fois et il n'y avait pas de suite derrière. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les attaques, c'est que ça se fait même par étapes. Donc, les scénarios sont sophistiqués. Et je donne un exemple, un scénario que j'ai en tête et j'invite tous ceux qui nous écoutent à être particulièrement vigilants. Mais un des scénarios qu'on voit aujourd'hui, c'est on vous invite à aller sur un site. On va, par exemple, vous subtiliser vos identifiants de carte bancaire. Avec ça, on va faire un paiement, un achat qui va être d'un faible montant. Pour quelque part passer sous les radars de la personne. Et puis, comme il y a eu dans la collecte d'informations, la collecte du numéro de GSM, par exemple, on va rappeler, le fraudeur va rappeler le client une semaine après. Il va dire, monsieur le client, bonjour, c'est votre banque. Vous avez fait il y a eu un paiement d'un montant X qui a été fait la semaine dernière. Est-ce que c'est vous qui en êtes à l'origine? Ben non, c'est pas moi. Vous voyez, donc la personne est mise en confiance, est mise, comme disait Ananda, dans un état de promesse. Cas de stress. Et là, ensuite, le fraudeur, il va passer aux étapes suivantes, il va collecter davantage d'informations et il va faire des opérations qui sont souvent là plus de quelques euros, mais qui vont être bien plus impactantes financièrement pour les utilisateurs, pour les consommateurs. Et donc ouais, et ces scénarios par étapes, où quelque part, maintenant, les éléments sont envoyés par SMS avec un canal SMS qui respecte celui de la banque. Donc, les SMS sont spoofés. Souvent, il y a du social engineering derrière. Le fraudeur, il connaît le nom de votre banquier et il va appeler le consommateur avec le nom du banquier, etc., etc. Avec le numéro de téléphone, c'est le numéro de la banque. Donc, vraiment, les scénarios vont très loin. Et il faut vraiment rester vraiment très très vigilant pour pas partager ses secrets. Moi, l'exemple que je donnerai toujours, c'est vous avez une maison, vous mettez une alarme, même 10 alarmes, vous mettez 15 serrures sur la porte. Votre maison, c'est un bunker, elle est très bien protégée. Si vous promenez dans la rue et que quelqu'un vous dit pour X ou Y raison, j'ai besoin des clés de ta maison et que tu lui donnes, t'as beau avoir mis toutes les serrures du monde, la maison, elle va finir par s'ouvrir. Mais là, c'est le même principe. Il faut vraiment ne rien divulguer, ne rien donner. Et comme disait Ananda, surtout si un voyant s'allume, c'est de contacter son professionnel dès que c'est le cas. Voilà.
Oui, je crois que ce que Ananda et Pierre ont décrit, c'est vraiment toute la magnitude du problème. Et je serais encore peut-être un rien plus clair par rapport à ce que tout un chacun pourra voir demain sur le display de son portable, à savoir le numéro 45 22 22 et où le plus perspicace des clients de la banque se dira « Ah mais 45, c'est bien Mashpoorcase, 22 22, mais c'est bien une agence de mon rayon. » Eh bien, c'est Mashpoorcase. Ce numéro, il a été subrepticement spoofé. Et il apparaît alors que derrière, il y a un escroc qui opère depuis ailleurs. Et pourquoi est-ce que je développe cet exemple dans toute sa brutalité? Et parce que, oui, comme Pierre vient de le dire, il y a l'exemple vraiment bateau de ce qu'on appelle en anglais la gross negligence, donc l'inattention ou bien la faute lourde de celui qui se fait regarder au-dessus de l'épaule et qui tape ces quatre lettres de son code PIN. Je crois que même les tribunaux l'ont compris et ne reconnaissent pas donc cette demande d'indemnisation, ces cas-là. Mais il y a des cas très sophistiqués, comme on vient de le dire. Alors, par rapport à ces cas très, très sophistiqués, il y a des discussions politiques réglementaires pour l'instant qui tournent autour de la révision de ce qu'on appelle la Payment Service Directive 2 pour en faire un règlement Payment Services. Il y a une idée du secteur bancaire européen de mettre dans la chaîne des responsables également toutes les entreprises qui aident à mettre en place des sites. Tous les opérateurs télécoms qui peut-être avec une certaine facilité permettent donc la mise en place de connexions donc via GSM et donc l'octroi de numéros GSM donc pour ainsi plus rapidement remonter à la source des fraudeurs qui n'ont plus besoin de faire des hold-up bancaires, hein. C'est fini, ça. Vous n'allez pas risquer 10 ans de prison pour entrer dans une agence bancaire avec un revolver. Non, aujourd'hui, vous faites ce qu'on connaît et vous vous récupérez 100 fois plus. Donc, l'idée, c'est de responsabiliser plus l'ensemble des acteurs qui vont bien au-delà des simples établissements de crédit et ainsi damer le pion à cette criminalité qui ne fait qu'augmenter.
Oui, il y a un double enjeu, hein, c'est de faire prendre conscience au consommateur de la responsabilité qu'il a par rapport au partage de certaines informations et en même temps, c'est de trouver des solutions qui, le plus possible, permettent de se passer de l'implication de ce consommateur dans l'utilisation des solutions, de telle sorte à ce qu'il y ait le moins d'informations personnelles, il y ait le moins de secrets qui soient utilisés, même dans le cadre de transactions sécurisées. C'est aussi l'objectif de conscientiser au maximum l'utilisateur sur ce qu'il est en train de faire, de telle sorte à éviter qu'il se fasse duper. Et qui, sous la contrainte ou autre, transmettent ces informations secrètes. Donc, il y a c'est plusieurs enjeux à la fois qui sont poursuivis.
Ouais, je suis d'accord qu'il faut vraiment collaborer avec tout l'écosystème, en fait, parce qu'il n'y a pas déjà, il n'y a pas de risque zéro. Je veux dire, il y a toujours, donc, il faut travailler sur plusieurs volets, à la fois la sensibilisation du consommateur par rapport à ce qu'on vient de dire, et aussi la collaboration avec les télécoms. Dans certains pays, ils sont déjà bien plus avancés, je dois dire. On a vu, par exemple, en France, ils ont la tokenisation, en fait, des numéros de téléphone. Donc, il n'est plus possible de pouvoir spoofer, en fait, de numéros de téléphone. Dans certains pays nordiques, il y a aussi un KYC qui est fait au niveau donc de toutes les entités qui envoient des SMS. Donc, on sait exactement qui envoie l'SMS et donc il y a une certaine validation en fait de l'émetteur du message. Donc, il y a des solutions sur lesquelles je pense qu'on peut encore avancer ensemble avec l'ensemble de l'écosystème. En fait, c'est important.
On ne reste pas à rien faire, quoi. Il y a vraiment une vraie dynamique de l'ensemble des acteurs pour protéger au mieux, encore une fois, le consommateur, fournir des solutions qui soient... C'est toujours cette difficulté à trouver le juste compromis entre la sécurité, qui est souvent synonyme de contrainte, hein, et qui va avec des contraintes, et l'expérience utilisateur qui doit rester la plus fluide possible, sinon le consommateur n'utilise pas les solutions. Et c'est un vrai casse-tête, parfois, parce que c'est tout simplement pas simple, et il faut arriver à trouver... Il y a beaucoup d'innovation aussi derrière, mais c'est un vrai sujet sur lequel l'ensemble des acteurs travaillent.
C'est également un sujet qui se voit, visé par des nouvelles initiatives réglementaires comme celle de l'intelligence artificielle. Alors, à lire le nouveau projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, tout système intelligent qui pourrait être utilisé dans la sphère bancaire devra être considéré comme étant high risk. Donc ça va, encore une fois, impliquer des efforts additionnels de mise en musique procédurale pour permettre, d'une part, par exemple, la reconnaissance très très rapide du changement de patterns sur un compte, sur un compte d'un client lambda, où seuls les salaires, les loyers et les frais de la vie quotidienne étaient échangés, où tout d'un coup des transferts vers l'étranger apparaissent, pour détecter ça le plus vite possible. On pense aujourd'hui mettre en place des outils d'intelligence artificielle, le terme étant pompeux en l'occurrence, mais néanmoins, c'est l'agrégation d'une masse importante de données qui mérite donc ce terme. Donc oui, on veut y arriver, mais oui, on est également conscient de contraintes qui sont celles de la minimisation des données liées au RGPD et qui seront liées demain aux efforts de procéduraux en termes d'intelligence artificielle dans le domaine bancaire.
Je trouve ça rigolo que tu parles maintenant de l'intelligence artificielle, sachant que j'avais l'exemple inverse en tête plutôt.
Oui.
Parce que je pense que c'était Mich Strautz, qui est un expert de l'intelligence artificielle, qui disait en fait on va vivre dans un espace où tout ce qui est numérique, il ne faut plus faire confiance. Donc la voix, ça peut être remodélisé par l'intelligence artificielle, l'écrit de toute façon, c'est super peu facile, et la vidéo aussi. Et donc, qu'est-ce qui reste pour le consommateur? C'est un moyen sécurisé de se connecter, et là, je suppose que les plateformes ou les applications bancaires restent quand même assez « safe ». Et puis aussi les outils qu'on a mis en place à Luxembourg, donc le Lux Trust. Donc, je sais pas, comme service aux écouteurs, quel est le moyen le plus efficace et sécurisé de communiquer avec votre banquier si vous avez besoin de quelque chose?
Je dirais juste sur le sujet de l'AI, en fait, qu'on est tous, je pense, un peu d'accord que l'AI offre des choses très positives, en fait, pour notre avenir et des choses aussi qui nous font tous peur. Donc, il y a le bien, il y a le mal. Et ici, dans ces cas précis, c'est la même chose. En fait, l'AI peut nous aider à détecter des fraudes. Hein. Donc, c'est vraiment une use case sur laquelle la BBL travaille aussi avec l'Université de Luxembourg, en fait, pour fédérer, en fait, un modèle sur lequel on partagerait des données anonymisées pour améliorer les modèles d'identification en fait des fraudes parmi les banques. Au même temps, en fait, on a aussi discuté au niveau de notre groupe de travail cybersécurité sur le sujet des nouvelles menaces qui peuvent apparaître grâce à l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a vraiment les deux sujets. Mais concernant la sécurité, je te laisse, Pierre.
Ouais, par rapport à la sécurité, oui. Donc, l'utilisation des applications bancaires est aujourd'hui un gage d'assurance pour les consommateurs. Parce que ces applications, elles sont ce qu'on appelle pen-testées avec, au niveau sécuritaire, de manière très, très stricte. Donc, l'utilisation de ces plateformes-là est secure. Vous l'avez dit, il y a aussi LuxTrust au niveau de la place luxembourgeoise, qui est au même titre qu'IOB, une autre initiative de place, avec un mécanisme d'authentification, d'accès, de validation de paiement, de signature de documents qui est également mutualisé, centralisé. Donc là, effectivement, il y a aussi l'assurance pour le consommateur d'utiliser des solutions qui sont parfaitement conformes à la réglementation et qui vont lui permettre, quand on parlait d'être conscient des opérations qu'on fait, de bien valider ce qu'on veut valider. Donc, si je fais un paiement, je dois avoir le contexte de mon paiement. Je dois, quand je valider que ce paiement-là et pas un autre. Il en va de même pour les virements, etc., etc. Donc, on a aussi, encore une fois, la chance d'avoir à Luxembourg des solutions qui, quand on les benchmark avec ce qui se fait en Europe, qui sont dans le haut du panier en termes de sécurité. Donc, on sait que derrière, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça amène des contraintes, oui, certes, mais in fine, la protection du consommateur, c'est l'élément clé. Et on préfère que le parcours soit un petit peu plus exigeant au départ, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de friction, que les utilisateurs, à juste titre, ne comprennent pas toujours, mais que derrière, ils soient protégés, qu'ils ne se retrouvent pas avec des pertes ou avec des événements, enfin avec des choses qu'ils n'auraient pas voulu faire. Voilà.
Alors, je me permets de signaler qu'aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un grand jour parce que le Conseil européen a voté eIDAS 2. Donc, le règlement européen qui va remplacer celui que nous connaissons, eIDAS 1, à savoir ce qui règle la signature électronique et les services de confiance dans l'Union européenne. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est un grand jour? Eh bien, dans une perspective de lutte contre la criminalité financière, on peut prétendre qu'à moyen terme, avec la mise en place des e-wallets, donc des portefeuilles électroniques pour chaque citoyen de l'Union européenne, avec la possibilité donc d'y faire rentrer depuis le originator jusqu'au end user tous les documents qui méritent la protection, comme un permis de conduire, comme un diplôme d'université, comme une fiche de salaire, eh bien on va pouvoir endiguer probablement l'ardeur criminelle en faisant donc échapper cela à des intermédiaires trop nombreux.
Ouais, c'est intéressant ce que dit Joseph, parce qu'effectivement c'est un point important, l'arrivée d'eIDAS 2, parce que dans le contexte de l'identité en Europe.
Excusez-moi, mais ça paraît tellement normal pour tout le monde ici. C'est quoi l'abréviation ou c'est quoi l'acronyme
eIDAS, ça veut dire Electronic Identification and Authentication Services.
Merci.
En fait, c'est un règlement, c'est un règlement européen qui permet d'harmoniser l'identité numérique en Europe. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est je suis citoyen luxembourgeois. Demain, je fais une signature électronique sur un portail allemand et l'affaire est portée devant une juridiction autrichienne. Si les principes de mise en application, de mise en œuvre de eIDAS sont respectés, il y a une juridiction transfrontalière qui va s'appliquer avec des mécanismes qu'on appelle interopérables et qui vont permettre de favoriser les échanges transfrontaliers. Voilà un peu l'idée qu'il y a derrière. Et eIDAS 2, en fait, aujourd'hui, d'après la Commission européenne, il y a à peu près 60% des citoyens européens qui sont équipés d'une identité numérique, environ. Le Luxembourg et la Belgique, par exemple, sont en avance dans ce contexte-là. La France est, par exemple, en retard. Mais eIDAS 2 va imposer l'identité numérique à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que demain, les États membres, les 27, vont devoir équiper leurs citoyens avec une identité numérique de manière obligatoire. Alors, ça va se matérialiser par les cartes d'identité électroniques qu'on connaît, qu'on a ici à Luxembourg, mais aussi, comme le disait Joseph, avec des e-wallets. Le e-wallet, il va concrètement, c'est quoi? Ça va se retrouver sur une application mobile, hein, c'est le format qui est défini. Et au travers de cette application mobile, le citoyen va pouvoir accéder à l'ensemble des services privés et étatiques européens en toute sécurité et pouvoir partager ces informations via des protocoles qui sont en train d'être finalisés. Voilà. Et l'objectif de la Commission, c'est que d'ici 2030, on passe de 60 à 85%, entre 80 et 90% de citoyens équipés de ces identités numériques. Voilà, pour favoriser les échanges digitaux, pour renforcer la sécurité, etc.
En effet, c'est un grand jour. La prochaine fois que je devrais prendre l'avion et que j'aurai pas ma carte d'identité sur moi, j'aurai épargné quelques sous. Donc, merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Merci Brian.
Evergreens by Spreakers. Restez à jour avec tous les épisodes en vous abonnant à notre podcast.